Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. L'appel d'Emmanuel Macron à une société de la vigilance contre l'hydre islamiste. Discours dans la cour de la préfecture de police de Paris ce matin, hommage aux quatre victimes de l'attentat jeudi dernier.
Quatre Français sont tombés ce jeudi 3 octobre. Et si l'émotion est si forte dans le pays, c'est parce que chacun voit en eux un fils, une fille, un père ou une mère, un frère comme une sœur,
Et les quatre cercueils dans la cour de la préfecture, nous vous raconterons cette cérémonie. France, portrait social, près d'un an après les gilets jaunes, les coutures craquent toujours. Dans la rue aujourd'hui, retraités, agriculteurs, salariés des hôpitaux et des maisons de retraite. Dans le tableau également, le nombre de factures de gaz et d'électricité impayées explose. Le médiateur de l'énergie, Jean Gobert, est notre invité. Le prix Nobel de physique à des spécialistes du cosmos, un nord-américain de Suisse, leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde, dit l'Académie. Au sommaire encore, incendie circonscrit à Villeurbanne, 5000 mètres carrés de bureaux, très spectaculaire ce matin. La guerre en Syrie, racontée dans un film, alors qu'une nouvelle offensive turque se prépare dans le pays. Une fâcherie entre la Chine et la NBA, le championnat de basket américain. Pékin très susceptible face aux critiques sur les droits de l'homme. Et puis l'arbitrage vidéo dans le football, plébiscité par le public. 13h30, ce sera l'heure de la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Vous philosophez aujourd'hui, monsieur.
Oui. À quoi peut ressembler une véritable démocratie écologique pour lutter à la fois contre les inégalités et le changement climatique? Je reçois le philosophe Dominique Bourg pour en parler. Il publie un ouvrage sur la question et on peut lui poser toutes les questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000. France Inter, vous avez le programme jusqu'à 14h30. C'est parti.
France Inter.
Le gris de la cour, les costumes sombres et les uniformes, la sonnerie aux morts, la minute de silence, la pluie, l'ambiance ce matin à la préfecture de police de Paris ressemblait à ce qu'elle est depuis l'attentat de jeudi dernier, lugubre, très profonde gravité, très grande émotion. Au milieu de cette cour grise, quatre cercueils bleu, blanc, rouge, les quatre victimes, décorées de la Légion d'honneur à titre posthume. Ils étaient gardiens de la paix, responsables d'unités locales de police, adjoints administratives. La police directement visée par une attaque terroriste après un dysfonctionnement d'État, comme l'a reconnu le ministre de l'Intérieur. Et pour la première fois, Emmanuel Macron est confronté à cela contre l'hydre islamiste. Il en appelle à toute la société.
Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode. La vigilance, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations. Ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Une séparation. Ne pas nous habituer. Jamais. Car ce qui se joue, c'est bien le combat de toute une nation contre ceux qui veulent menotter la liberté, les femmes, la civilité, contre ceux qui veulent diviser, séparer, manipuler. Faisons bloc, tous, ici réunis.
Dans la cour de la préfecture, une partie du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, bien sûr Christophe Castaner, les deux anciens chefs d'État François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais les noms que l'on retiendra, ce sont ceux des quatre victimes, Aurélia Trifiro, Brice Lemescam, Damien Ernest, Anthony Lancelot. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Sophie, vous avez assisté à cette cérémonie pour France Inter, racontez-nous.
Une cérémonie très émouvante, extrêmement sobre, peu de musique, beaucoup de silence, très lourd dans cette cour d'honneur de la préfecture de police de Paris, la même où le tueur a terminé son parcours sanglant avant d'être abattu par un très jeune policier jeudi dernier. Dans cette cour, d'autant plus chargée de douleur, les quatre cercueils ont été portés par des collègues, quatre cercueils recouverts de drapeaux tricolores. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été le premier à venir s'incliner devant les dépouilles des quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, tous élevés au rang de chevaliers de la Légion d'honneur, victimes du devoir dans l'exercice de leurs fonctions, a dit le ministre de l'Intérieur en déposant ses Légions d'honneur sur les quatre cercueils.
Commandant Damien Ernest, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Anthony Lancelot, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Secrétaire administratif, Brice Lemescam, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Aurélia Trifiro, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe sont arrivés sous la pluie. Premier salut au personnel en uniforme dans la cour. Emmanuel Macron, l'air grave, s'est incliné devant les cercueils avant de s'entretenir plus de 20 minutes avec les familles des victimes et les policiers du renseignement, tous protégés sous des tentes à l'abri des regards. Dans son discours, Emmanuel Macron a rappelé que 7 minutes avaient suffi à plonger la préfecture de police dans la terreur jeudi dernier. Il a dit sa fierté face à ses victimes policiers. Il a dit sa pensée affectueuse pour les deux filles de Damien Ernest, mort à 50 ans, sa pensée pour sa compagne avec qui il devait se marier, ses pensées pour les deux fils d'Anthony Lancelot, 39 ans, pour le compagnon de Brice Lemescam, 38 ans, ses pensées pour le compagnon policier et les deux petits garçons d'Aurélia Trifiro, 39 ans. La République sera toujours à vos côtés, je m'y engage, a promis le président Macron. Les quatre cercueils viennent de passer sous nos yeux en cortège funèbre. Ils viennent de quitter, sous escorte, la préfecture de police de Paris.
Sophie Parmentier en direct de la préfecture pour France Inter avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Avec cette attaque, Emmanuel Macron est confronté à cette réalité, la France au temps du terrorisme. Particularité cette fois-ci, c'est une institution au cœur de l'État qui a été visée, la police. Et depuis jeudi, l'enquête montre que cet attentat aurait peut-être pu être évité. Mais pour combattre l'islamisme, les institutions ne suffisent pas, dit le chef de l'État. Yael Goz, pour le président de la République, c'est toute la société qui doit faire bloc.
Faire bloc contre un ennemi clairement désigné, le terrorisme islamiste. Mais pour éviter tout amalgame, Emmanuel Macron insiste, ce n'est pas le combat contre une religion, mais contre son dévoiement, l'hydre islamiste dont il parlait déjà lors de son hommage à Arnaud Beltrame. Cet islamisme souterrain, disait à l'époque Emmanuel Macron, qui agit clandestinement sur les esprits faibles, et il ajoutait cet ennemi insidieux qui exige de chacun d'entre nous un regain de vigilance et de civisme. Un an plus tard, le chef de l'État va plus loin. Il appelle à bâtir cette société de la vigilance dans laquelle chacun, à sa place, doit repérer les signaux faibles. Ce manque de vigilance qui a conduit à l'inacceptable, un Michael Harpon qui passe à l'acte dans le Saint des Saints, là même où l'État traque les terroristes. Appel au sursaut donc, au réarmement moral de l'État, réarmement financier aussi, puisque le président promet des budgets en hausse pour les forces de l'ordre. Un Macron avec des accents de Clémenceau 1917, ce doit être le combat de toute une nation, dit-il, message adressé aux oppositions. Marine Le Pen en tête, qui était présente ce matin à la cérémonie. Elle qui réclame la tête de Christophe Castaner et qui fait directement le lien entre immigration et terrorisme.
Et sur les failles du renseignement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera entendu à 3 reprises cette semaine par les parlementaires. Ce matin, par la délégation parlementaire au renseignement, le ministre et son secrétaire d'État ont répondu avec un souci de précision, déclare le président de cette délégation parlementaire, Christian Cambon.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Automne 2019, le gouvernement craint toujours une reprise des manifestations, manif de catégories de Français dont les conditions de travail au quotidien ou les fins de mois sont toujours difficiles. Ce mardi le confirme, les braises sont encore chaudes dans la rue. En même temps, à des endroits différents, les salariés des hôpitaux, ceux qui travaillent auprès des personnes âgées, les retraités et les agriculteurs. Alors on entendra les mots d'un retraité, Michel, dans quelques minutes. D'abord, zoom sur les agriculteurs. Mot d'ordre lancé par leur principal syndicat, la FNSEA, bloquer les axes routiers. Le motif de colère, sentiment que le métier est dénigré, les accords commerciaux internationaux qui créent selon eux une concurrence illégale et importent un modèle agricole et alimentaire dont on ne veut pas. Alors de la Moselle au Loiret, du Limousin au Vaucluse, des blocages et barrages filtrants se multiplient aujourd'hui. Bonjour Stéphane Iglesis.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous êtes à Toulouse, point de contestation important, hein.
Ah oui, il y a eu une opération escargot très importante ce matin sur l'autoroute A64 entre Saint-Gaudens et Toulouse. En fait, laisser les gens aller travailler sans les bloquer, c'était le mot d'ordre d'aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que en fait, les agriculteurs ont bloqué les routes du milieu de matinée jusqu'au milieu d'après-midi seulement. Comme vous le disiez, enjeu pour eux, le CETA bien sûr, ce traité entre l'Europe et le Canada, et les zones sans pesticides autour des maisons. Luc Mesba, porte-parole de la FDSEA de Haute-Garonne.
5 mètres, on pense que c'est rien. C'est 15 000 hectares, avec un chiffre d'affaires de 1 000 ou 1 200 euros. Je le parlais avec le président d'Oralis l'autre jour. C'est 18 millions d'euros sur le département. Il faut savoir une chose, quand il y a 1 kg de marchandises de production française qui n'est pas produite en France, c'est de la merde qui rentre dans l'assiette des Français.
Patrick, lui, il est agriculteur à Carbonne. Il souligne que des pesticides, nous en avons chez nous, partout.
Le mot pesticide, pour moi, ça ne me va pas. Mais parce que vous allez employer des pesticides, vous aussi. Hein ? Quand vous allez chier, vous mettez des pesticides. Quand vous avez des mouches, vous mettez des pesticides. Quand vous avez un jardin. Si vous ne traitez pas les tomates, si vous ne traitez pas les haricots, ne serait-ce qu'un minimum, il y a des insectes qui s'y mettent et vous êtes obligé de le faire.
Et voilà, maintenant c'est l'heure du pique-nique en plein périphérique toulousain, à deux pas de l'ancienne usine AZF et sous un soleil de plomb.
Merci Stéphane Iglesis. Et à Toulouse, on dit franchement les choses. Parmi les conséquences de ces barrages filtrants, autoroute A6 coupée après Mâcon en direction de Paris, des blocages sur l'A36 entre Mulhouse et Belfort, ça coince du côté de Laval, de Nîmes, de Pau et de Poitiers, entre autres. Voilà pour la parole des agriculteurs ce matin, mais allons un cran plus loin avec vous, Daniel Messager, bonjour.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h. Daniel, analyser le malaise des agriculteurs, c'est aussi s'intéresser à leur santé qui n'est pas brillante, santé psychologique en premier lieu.
Oui, on en entend parler très régulièrement. Un nombre de suicides chez les agriculteurs particulièrement élevé. Ce serait au moins 2 par jour selon la Mutualité Sociale Agricole. Des chiffres parus l'été dernier, on parle d'ailleurs de surmortalité. Plus l'isolement et les mauvaises conditions financières sont importants, plus ce pourcentage augmente. Le risque de suicide est de 57% chez les bénéficiaires de la CMU. Alors, suicide souvent précédé par une dépression. Il y a quelques mois, une étude menée dans 5 départements par Santé publique France révélait une dépression chez près de 14% des hommes et 19% des femmes travaillant comme exploitants agricoles.
Est-ce qu'on a un élément de comparaison avec le reste de la population ?
Tout à fait. Dans la population générale, c'est 9% chez les hommes pour la dépression, 13% chez les femmes. Et les secteurs les plus touchés sont dans l'élevage bovin qui produit du lait et de la viande.
Alors, on l'entendait dans le reportage de Stéphane Iglesis, il y a aussi la remise en cause des systèmes d'exploitation, usage de pesticides trop importants.
Et pesticides dont ils sont les premières victimes, avec des risques plus importants de cancer, exemple lymphomalin non Hodgkinien, un cancer du système immunitaire reconnu comme maladie professionnelle pour les agriculteurs exposés aux pesticides par manipulation, contact, inhalation de produits ou même par entretien des machines destinées à l'application de ces pesticides. Alors d'autres cancers sont aussi surreprésentés comme le cancer de la peau par exemple.
Et puis des maladies neurologiques comme Parkinson.
Oui, reconnue elle aussi comme maladie professionnelle. Enfin, même si c'est loin d'être systématique, avec des cultivateurs qui doivent parfois aller en justice pour cette reconnaissance. Et là, ce sont les viticulteurs qui sont particulièrement exposés. Alors, on le voit dans l'environnement agricole, de nombreuses nuisances ont un impact sur la santé. Santé publique France évoquait récemment encore les problèmes respiratoires liés aux poussières, micro-organismes, désinfectants.
Et on pourrait ajouter problème de fertilité. La population agricole est incontestablement, Daniel Messager, une population à risque sanitaire.
Elle l'est en grande partie pour la santé physique à cause de l'usage de produits toxiques. Alors, un moindre usage, une orientation vers une agriculture plus biologique conduirait à réduire ces risques. Pour ce qui est des risques psychiques, les problématiques sont bien plus vastes et c'est ce qu'expriment aujourd'hui les agriculteurs dans leurs manifestations.
Merci Daniel Messager. Autre signe venu de cette France qui s'inquiète pour les fins de mois, l'inquiétude du médiateur de l'énergie, de plus en plus sollicité par des consommateurs qui ne parviennent pas à payer la facture de gaz ou d'électricité et risquent ou subissent une coupure. Bonjour Jean Gobert.
Bonjour.
Quelques chiffres pour prendre la mesure du phénomène.
Bah écoutez, celui que nous avons publié le jour dernier, c'est une augmentation de 18% des coupures en matière d'électricité depuis le mois d'avril, sur les trois premiers mois de la période où on a le droit de couper, puisque vous savez que nous avons une trêve hivernale bienvenue qui commence le 1er novembre et qui termine le 31 mars. Donc en fait, c'est seulement depuis quelques mois qu'on a pu mesurer 16% sur l'électricité, 18% sur l'électricité, 10% sur le gaz. C'est important et ça montre bien les difficultés de nos concitoyens pour payer leurs factures d'énergie. Je dis toujours, il y a en fait, somme toute, peu de gens malhonnêtes parmi nos concitoyens. Ouais. Ceux qui ne paient pas sont des gens qui ne peuvent pas payer.
Vous avez une déclinaison, vous savez dire quel type de personnes ou de régions sont plus particulièrement concernées ?
Il n'y a pas de région. Très clairement, les gens qui sont les plus concernés sont les gens qui malheureusement ont la double peine. Parce que comme ils ont peu de revenus, ils occupent des logements avec des loyers moins élevés. Ouais. Souvent des logements dits passoires, sans doute évoqué ce sujet-là.
Absolument.
Et donc, du fait même, ils ont des factures plus élevées et ces factures, ils n'arrivent pas à les payer. Je crois que c'est vraiment, je dis parfois la double, la triple peine, parce qu'après, ça veut dire dans un certain nombre de cas, on se restreint, c'est des problèmes de santé. On a évoqué les problèmes de santé des agriculteurs. Ouais. Je connais bien, je suis agriculteur d'origine. Mais par contre, on peut aussi évoquer les problèmes de santé des gens qui sont parmi les plus défavorisés de nos concitoyens. Ces problèmes respiratoires aussi, parce qu'on ne ventile pas la maison. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là qui sont derrière cette précarité énergétique.
Alors, pour aider les foyers modestes, il y a le chèque énergie, c'est 200 euros par an en moyenne.
Oui.
Est-ce que ça marche? Théoriquement, près de 6 millions de foyers le touchent. Il n'y a pas de démarche particulière à faire. Allez-y.
3,6 millions. Le gouvernement a ciblé 4 millions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y en a que 3,6 millions qui l'ont perçu.
J'avais vu le chiffre de 5,8.
Voilà. Au départ, oui, on avait dit 5,8, mais ça a été plus bas que ça. Vous savez, entre parfois les annonces et les moyens financiers qu'on y met, il peut y avoir un peu de différence.
Est-ce que tous ceux qui y ont droit le touchent?
Sans doute pas. Une grande majorité le touche, et c'est d'ailleurs ce que je dis, y compris à vos confrères, quand je m'adresse à mes concitoyens, je leur dis surtout, veillez à avoir bien mobilisé les aides dont vous avez, auxquelles vous avez droit. Il y a le chèque énergie, 200 euros, c'est que souvent 10% de la facture, parce que souvent ils ont des grosses factures, mais aussi le fonds social logement, qui aide aussi pour l'énergie, mais aussi un certain nombre d'aides qui peuvent être distribuées par les mairies. Je crois qu'il faut regarder tout ça, et je dis aux gens surtout, si j'ai un message à donner, les coupures, ça va se terminer dans quelques semaines, dans 3 semaines, sauf que pendant ce temps-là, il va y avoir une grosse activité de coupure. Donc si vous êtes menacé de coupure, n'hésitez pas d'abord à appeler le correspondant social de votre opérateur, il existe. Quel que soit l'opérateur, le CCAS de votre commune, les services sociaux, la CAF, tout ça. N'attendez pas que ce soit coupé pour dire « oh là là, on m'a coupé ». Dites « je risque d'être coupé » pour qu'on trouve des solutions. On peut aussi étaler les factures et un certain nombre de choses qu'on peut faire et que nos citoyens ne connaissent pas.
Alors, Jean Gobert, je voudrais vous faire entendre un témoignage. Il y a donc beaucoup de manifestations aujourd'hui en France, notamment de retraités. Voilà le témoignage de Michel, qui est dans la manif des retraités.
Moi, ça va faire plus de 10 ans que je suis parti. Il y a une régression dans nos ressources. Quand on empile les strates l'une sur l'autre, les non-indexations, les non-réévaluations, alors qu'on a une inflation à 1,2, on a réduit notre train de vie. Moi, si je fais à peu près mon compte, c'est au moins 60 à 70 euros mensuels qui manquent. Mon épouse et moi, on tourne à 2000 euros par mois. Quand on a retiré 600 euros de loyer et tout le reste, il n'y a pas de mystère, il en manque. Parce qu'à force d'être raboté, on s'en sort à coup de faire très 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 attention. On évite de changer du matériel quand il faut le changer. Ça fait des années qu'on n'a pas mis les pieds dans un théâtre ou dans un cinéma. Donc on réduit aussi ce type de dépenses. Je suis, et mon épouse, très inquiet sur les années qui viennent.
Jean Gobert, est-ce que des témoignages de cette nature, là on parle d'une classe moyenne, petite classe moyenne, des gens pour qui le reste à vivre, une fois qu'on a payé tout, les loisirs, tout ça, c'est compliqué. Est-ce que du poste où vous êtes, vous en avez beaucoup de témoignages de cette nature?
Ah mais bien sûr, on connaît ces situations malheureusement, et on n'est pas encore dans les situations les plus compliquées.
Bien sûr.
Mais véritablement, ces gens-là qui avaient espéré pendant leur retraite d'avoir un petit peu d'aisance, comme on dit, pas forcément la richesse, pas forcément un petit peu d'aisance, ils se rendent compte que année après année, ils ont moins. Y compris parce que les charges incompressibles des familles ont continué d'augmenter pendant que le revenu n'augmentait pas. Et ça, c'est une difficulté. J'ajoute aussi, parce que j'ai parlé des gens en difficulté, j'ai pensé aux familles avec des enfants. Mais je n'oublie pas non plus que souvent, ils sont ceux qui ont construit des pavillons dans les années 70, qui n'étaient pas isolés. Qui étaient à la taille de la famille qu'ils avaient, 2, 3, 4 enfants, et aujourd'hui ils se retrouvent dans ce même pavillon avec les mêmes charges, avec l'énergie qui a augmenté et le budget qui a baissé. Voilà, on trouve, c'est vraiment le phénomène de ciseaux qui paupérise une partie de notre classe, qui auparavant était la classe moyenne. J'ai souvent fait, avant, quand je faisais de la politique, je faisais une différence entre la classe moyenne
des Côtes d'Armor.
Oui, la classe moyenne supérieure, celle qui a pu, je vais dire, bénéficier d'un tas d'avantages, et la classe moyenne inférieure, qui paie tout ce qu'elle doit, mais qui ne peut faire aucun écart.
Merci Jean Gobert d'être
Merci
venu
beaucoup.
Dans les studios de France Inter. Et sur franceinter.fr, on trouve les grands chiffres à propos de cette alarme que vous sonnez sur les factures impayées dans ce domaine de l'énergie. Merci. Le prix Nobel de physique est attribué à des spécialistes du cosmos. Alors Sophie Becherel est dans ce studio. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On donne les noms, le canado-américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Leurs travaux ont modifié notre regard sur le monde, dit l'Académie Nobel.
C'est tout à fait juste. James Peebles est né en 1935. Il a fait toute sa carrière à Princeton. Son domaine, c'est la cosmologie. Autrement dit, les lois et l'histoire de l'univers. Il a prédit l'existence du fond diffus cosmologique, un terme compliqué pour désigner le rayonnement électromagnétique qu'on observe dans toutes les directions du ciel. Aujourd'hui, l'univers est froid et en expansion, mais à ses débuts, il était dense et chaud. Et le rayonnement observé aujourd'hui, c'est en somme la toute première photographie de l'univers bébé, 380 000 ans après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Il atteste de ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette expansion et le refroidissement de l'univers. James Peebles a prédit que s'il existait ce fond cosmologique diffus, on le verrait. Et c'est ce qui s'est passé avec le satellite Kobe en 1990. Plus largement, il est récompensé parce qu'il a enrichi la réflexion sur les lois qui régissent l'univers, et notamment ces deux grands mystères que sont encore la matière noire et l'énergie noire. Elles comptent pour 95% de l'univers et on ne sait pas ce que c'est. Quant aux deux Suisses, Michel Mayor, 77 ans, et Didier Queloz, 53 ans, ce sont les découvreurs de la toute première exoplanète 51 Pegasi B. En 95, eux aussi, par l'observation, ils prouvent qu'il n'y a pas que le Soleil, notre étoile, qui possède une colonie de planètes qui tourne autour. À l'époque, c'est la précision de leurs mesures sur un télescope installé à l'Observatoire de Provence qui a permis cette découverte, une légère différence de luminosité de l'étoile qui signe le passage devant elle d'une exoplanète. Aujourd'hui, on en a 4000 au catalogue. Elles sont très variées. On connaît notamment les habitables, c'est-à-dire ces planètes rocheuses sur lesquelles peut-être un jour on trouvera la vie.
Merci Sophie Becherel. Les préparatifs pour une opération militaire sont terminés. Propos du ministre de la Défense turc. Ankara prépare donc bel et bien une opération pour chasser les Kurdes du nord-est de la Syrie. Donald Trump a semblé donner son feu vert avant de reculer, mais la grenade est dégoupillée. Entre autres conséquences possibles d'une telle offensive, l'éparpillement dans la nature de 10 000 combattants djihadistes retenus dans le camp d'Alol, contrôlé par les Kurdes. La télévision publique chinoise va suspendre la diffusion prévue cette semaine de matchs d'exhibition de la NBA, le championnat de basket américain en Chine. C'est le dernier rebondissement du ballon après un tweet controversé du directeur général des Houston Rockets, une des équipes du championnat américain, soutenant les manifestants hongkongais. Alors à coup d'excuses, le basket américain avait tenté de calmer la situation avec la Chine, rien n'y fait. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Il faut dire que la Chine est susceptible particulièrement en ce moment. Hein.
Oui, il est inconcevable d'avoir des échanges avec des Chinois sans connaître ni comprendre l'opinion publique chinoise, expliquait le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères pour justifier la suspension de la diffusion des matchs de basket. Ça, c'est pour ce matin à 9h30. Mais à 10h54, le porte-parole de la diplomatie chinoise est aussi monté au créneau sur le dossier des Ouïghours. Il faut dire que les États-Unis ont rendu publique une liste noire de 28 lieux dans l'ouest de la Chine où serait réprimée la minorité musulmane. Ça, c'est pour ce matin à 10h54. Mais hier, à 12h06, c'est l'ambassade de Chine à Paris qui voyait rouge. Dans un communiqué, elle faisait savoir qu'elle n'appréciait pas du tout les prises de position de la France sur les événements à Hong Kong. Alors, on peut se demander pourquoi une telle susceptibilité. Eh bien, l'une des réponses possibles peut se trouver dans l'actualité. Cette semaine, on doit remettre quoi ? Le prix Nobel de la paix. Ce mardi, les lauréats finalistes du prix Sakharov seront connus et un nom revient dans ceux qui pourraient être distingués. Il s'agit du chinois Ilham Tohti, grand défenseur de la cause ouïghour, condamné en 2014 à la prison à vie. Or, les Chinois n'aiment pas être montrés du doigt par la communauté internationale sur les droits de l'homme. À titre d'exemple, le Dalai Lama, prix Nobel de la paix en 89 pour sa défense du Tibet, reste toujours un opposant 30 ans après.
Et la NBA a tenté de calmer la situation, mais elle ne va pas faire taire ses salariés et joueurs. La NBA ne va pas réglementer la parole des joueurs et des salariés, dit un des dirigeants. En Europe, les négociations autour du Brexit, et ça se passe de plus en plus mal. Angela Merkel avertit Boris Johnson qu'un accord est désormais extrêmement improbable. Sans un compromis de Londres, la pression monte. 12 jours après l'incendie de Rouen, des flammes à nouveau au cœur d'une grande agglomération. Villeurbanne, aux portes de Lyon, 5 000 3000 mètres carrés de bureaux partis en fumée sur le site Bel Air Camp qui abritait de jeunes et petites entreprises. Le feu est circonscrit, pas de blessés. Et Christophe Vincent, selon les premiers éléments dont on dispose, au-delà du caractère très spectaculaire de cet incendie, rien de comparable avec Rouen, Christophe.
L'incendie s'est déclaré à 7h et il a vite dégagé une épaisse fumée noire, visible de toute l'agglomération, d'où l'inquiétude des habitants du quartier Bel Air à Villeurbanne, qui ont assisté à l'intervention d'une centaine de pompiers 3 heures durant. Le feu a pris dans les anciens bâtiments d'Alstom, reconvertis en pépinière d'entreprise. Il a ravagé 5000 mètres carrés de bureaux, des locaux occupés par 55 PME et start-up, spécialisés dans la robotique, les meubles, le design, le vélo. Le site abritait aussi une entreprise de recyclage de batteries, mais sans lithium. 350 personnes travaillaient sur place. Toute la matinée, des fausses nouvelles ont inondé les réseaux sociaux. La préfecture a donc souhaité donner des précisions. Le site n'est pas classé Céveso. Les fumées ne contiennent aucune matière dangereuse et ne présentent pas de danger grave. Les analyses de la qualité de l'air n'ont rien montré d'anormal. Enfin, l'usine Safran, visitée en juillet par Emmanuel Macron, se trouve dans la même avenue, mais elle n'a pas été touchée. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Un mot de football, les journées de l'arbitrage se tiennent en France jusqu'au 23 octobre. À cette occasion, un sondage a été commandé auprès du grand public par La Poste, qui est partenaire des arbitres français. Il concerne notamment l'arbitrage vidéo. Et du côté du public, Jean-Pierre Blimaud, c'est un plébiscite.
93% des personnes interrogées estiment que l'assistance vidéo évite les erreurs d'arbitrage, 90% qu'elle évite les contestations, 88% qu'elle facilite le rôle de l'arbitre. Et pourtant, l'assistance vidéo n'a pas empêché certains dirigeants de monter plusieurs fois au créneau. Un exemple, le président du Stade Rennais, Olivier Létang, après un match à Marseille.
Aujourd'hui, c'est un capharnaüm et plus personne ne comprend absolument plus rien.
L'assistance vidéo ne peut pas corriger ce qui est du domaine de l'interprétation, répond Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, mais pas question de remettre en cause le principe.
L'assistant vidéo a vocation à corriger ce qui est clairement erroné aux yeux de tous et notamment aux yeux de tous les supporters. Quand nous corrigeons près de 70% d'erreurs, eh bien c'est effectivement une bonne chose et aujourd'hui tout le monde a bien conscience que nous ne reviendrons pas en arrière, même s'il y a encore des progrès à effectuer sur différentes situations et aussi sur la compréhension du domaine d'intervention de l'assistance vidéo.
Pascal Garibian précise que les arbitres ont proposé d'aller dans les clubs pour clarifier leur position, ce qui a été fait dans 12 club professionnel pour le moment.
Et ce soir, un match qualificatif pour les Bleus ES du foot Kazakhstan-France. C'est dans le cadre de l'Euro 2021. C'est à 19h.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Elodie Calac.
Sur les régions allant des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes vers le bassin parisien, le centre, le Grand Est, c'est gris, parfois pluvieux. Ça s'améliore doucement sur les régions voisines de la Manche. On retrouve des éclaircies, mais on n'est pas à l'abri d'une averse. Le vent est présent sur toutes ces régions, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. De la Gironde vers le sud de la Bourgogne et le Jura, on trouve des éclaircies assez belles. Et puis du sud de l'Aquitaine vers les Alpes et la Méditerranée, là c'est du soleil. Les températures gagnent quelques degrés cet après-midi. Ça reste parfois un peu juste au nord, mais au sud c'est très doux. 15 degrés à Metz, 16 à Paris, 17 à Lille, à Brest, 19 à La Rochelle, 21 degrés à Auxerre, à Aurillac, 24 à Clermont-Ferrand, Toulon, Narbonne et 27 degrés pour Agen ou pour Toulouse. Demain, il ne fera plus que 13 à 18 degrés au nord, 14 à 20 au sud, encore 21 à 24 près de la Méditerranée. Côté ciel, beaucoup de nuages, des averses, parfois accompagnées d'orages et de bonnes rafales de vent.